Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sans plus attendre, je vous propose qu'on enchaîne sur notre prochain sujet. Surtout que ça va être un peu plus léger. On a parlé robotique, on a parlé hardware, cartographique. Cette fois-ci, on va un peu détendre l'atmosphère. Ah merde. Non mais quand même, ça va être toujours un peu technique, mais on va parler gaming. Et on va parler de gaming sur pas n'importe quelle plateforme, sur macOS. Ce qui est quand même deux concepts normalement qu'on n'allie pas. Il y a
une résistance qui se fait à l'oreille.
Exactement, c'est un peu bizarre. Et ben vous allez voir, justement, c'est un sujet très intéressant. Parce que, historiquement, les Mac et macOS, en tant que plateforme, n'ont jamais été adaptés aux jeux vidéo.
Sauf que... Pardon, excusez-moi, je vous coupe un instant. On me demande de tempo. On a un petit souci de rec, pas de souci, mais quitte à reprendre le rec, faisons-le correctement pour la troisième partie. Donc, temporisons deux minutes. Deux minutes.
Bon bah...
Ça aurait été chafouin.
Ouais, t'avais mal commencé cette intro.
Je suis désolé, je suis vraiment désolé.
Ah, t'as plutôt bien fait.
C'est gênant du coup, non?
Moi, j'avais une super question, mais j'ai pas pu la poser. Je me demandais comment ils font pour que les racks, là, ils tiennent et ils soient stables. Parce que si t'as déjà empilé des trucs, tu sais que plus tu montes haut, moins c'est stable.
Mais en fait, quelque chose qu'on n'a pas vu et qui se voit plus difficilement sur les images, mais quand le robot il est sur un entre deux racks, là, il monte. Et en fait, après, pour aller chercher une caisse, il a un truc qui se déplie sur le côté et qui va chercher la caisse comme ça. Mmh. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un truc qu'il a... Enfin, c'est bien coordonné, quoi.
Je pense que la question de titre, c'est un rack... plus tu rajoutes du poids en haut sur un côté, plus c'est casse-gueule. Mais c'est possible que... Est-ce que, par exemple, tu penses qu'ils sont vissés genre des deux côtés, tu vois, en mode...
Oui, c'est possible. Bon, ça, c'est de la mécanique...
C'est possible, mais j'ai vu des plans drones qui passaient au-dessus, donc c'est pas complètement relié au plafond non plus, tu vois.
Ils sont pas si lourds que ça.
Non, ils sont pas reliés au plafond. Et non, en vrai, mais moi, la mécanique et moi, ça fait un peu deux, j'avoue que je sais pas. Mm-hmm.
Bah,
bonne question.
C'est mon côté bricolo qui a pris le dessus.
On leur demandera, on te fera un petit mail.
Super, faisons ça.
Exactement, avec les specs techniques, histoire de remonter ce rack dans le bureau.
Parfait, parfait. On a quoi ? On a 2,20 m de hauteur. Je pense qu'on peut mettre 4 bacs. Oui, je continue à tempo un petit peu, parce que je vois que ça s'agite à côté de moi, tout à fait.
J'en ai déduit qu'effectivement, c'était...
Oui, bah tu n'as plus d'oreillettes, que fais-je ?
Surtout qu'il a pris sa voix de tilt meuble. Genre, attends, parce que je vais vous raconter un truc, en fait.
Dingue.
Et non.
Mais plutôt que de meubler, on va demander à Tiffany comment elle va.
Bah, tu me mets en deux spots. Non, mais ça va très bien en vrai.
C'est quoi tes sujets ?
C'est-à-dire, au travail ?
Vacances ?
Alors, les vacances.
T'étais pas à la montagne ?
Si loin.
T'es pas allé au ski ?
Et alors.
Réponds !
Si, non, mais je m'entraîne. Peut-être que le chat. Je sais même pas si on a mentionné ça, mais avec Mathieu, on va faire un. On va faire un ultra trail, gars. Assume.
Ouais.
Et du coup, bon, tu fais pas le même que moi, je crois.
Non, toi, t'as décidé de faire 56 km parce que on sait pas pourquoi.
Ouais, voilà, mais t'en fais un aussi, c'est très bien. Et du coup, c'est en juin.
Ouais, pas commencé l'entraînement, tout va bien. Allez.
C'est en juin, donc il faut courir, voilà. Et donc, c'est ça ma vie en ce moment.
Pour l'instant, notre entraînement, c'est de commander des Uber Eats avec des bières.
Ouais, super, Mathieu. Non, mais comment tu vas pas abandonner au dernier moment?
C'est bon, on a jouté sous les roues.
Non, mais je vais pas essayer de me défendre. Parce que voilà, juste.
Juste, t'auras les rotules pétées à la fin. Quoi.
Voilà, exactement. Non, mais c'est le but. Mais ça sera en juin, il restera plus beaucoup d'émissions, donc ça ira.
Et vous le faites où? C'est Ultra Trail?
C'est à Saint-Mouins.
Alors, Ultra Trail, je pense que le mot est un trail. Moi, je fais pas un Ultra Trail, c'est un petit trail.
C'est combien de kilomètres?
33. C'est déjà beaucoup trop pour mon petit corps.
J'ai 56.
Moi, je considère que...
Mais j'ai un pote qui fait 96.
Tu vas pas lui enlever son ultra, ok?
Ok. Mais j'ai un pote qui fait 96.
Mais il y en a des très grands.
Là, je crois que ça commence à considérer... Enfin, je sais pas c'est quoi l'échelle des trails, mais... c'est fou ce meublage, là.
C'est bon, tout va bien.
Ah
bon. Vous pouvez reprendre sereinement, tout va bien.
Mais du coup, tu t'entraînes à Donf, quoi.
J'ai repris l'entraînement, mec. Ouais. Il faut que toi aussi, tu. Ouais. Il faut qu'on se sync.
Voilà. Mais faites ça ensemble.
Allez.
Avant Interscore, on va faire un atelier trail.
Non, mais oui, promis, le chat, si vous m'engueulez si j'ai pas commencé mon entraînement non, après, dans deux semaines.
Respect. Hop.
Je balancerai.
Je vous le disais, aujourd'hui on a un sujet cool puisqu'on va parler de gaming, encore une fois. Pour ceux qui ont suivi la chronique qu'a fait Mathieu sur une distribution très spéciale qui permet de se construire sa propre console de jeu, vous allez voir, il y a des petites similitudes en plus. On est dans les mêmes thèmes. Je vous le disais, historiquement, les Mac et macOS n'a jamais été une plateforme destinée aux jeux vidéo. Sauf que depuis quelques années, ça a évolué. Avec l'arrivée des processeurs de Apple Silicon, la donne a changé et maintenant Apple s'est mis à s'intéresser aux jeux sur Mac. Ils ont noué des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo jusqu'à lancer en juin dernier un truc très spécial qu'on va vous expliquer qui s'appelle le Game Porting Toolkit. Et quand effectivement on voit les keynotes d'Apple, il y a de plus en plus de... Voilà, il y a des démos qui sont un peu sexy où ils montrent des performances de dingue sur des ordis portables. Et normalement, cette phrase n'existe pas. Mais il y a des performances en jeu vidéo sur des ordis portables qui ont des batteries qui tiennent un peu la route. Il y a un côté magique dans les keynotes d'Apple quand tu vois les démos. Le truc, c'est que dans les faits, dans la réalité, c'est le vent plutôt qu'on entend les criquets. C'est-à-dire que...
Un peu d'écho.
Exactement, on en entend peu parler, on dirait qu'il n'y a quasiment pas de jeu. Mais en fait, ce n'est pas comprendre tout ce qui se passe dans les coulisses. Mathieu, tu t'es renseigné sur cette question et tu vas tout nous expliquer.
Ouais, et on va revenir un peu à l'origine d'Apple et de sa construction. De base, Steve Jobs, et donc Apple, s'en est un peu toujours foutu des jeux vidéo. John Carmack, qui est l'homme derrière Doom et Quake, donc, qui avait fait ce moteur de jeu, nous fait même la révélation. Il nous dit que, au fil des ans, plusieurs éléments m'ont amené à conclure qu'au fond, Steve Jobs n'avait pas une très haute opinion des jeux. Je ne l'ai jamais pris personnellement. Quand tu dis ce genre de phrase, c'est que potentiellement tu l'as pris un peu personnellement. Mais, mais tout ça pour dire que voilà, un pompe du jeu vidéo. C'est bien aperçu que Steve Jobs, son créneau à lui, c'était pas le jeu vidéo. Ça, c'est le post Facebook de John Carmack. C'est la source. Oui. Là, j'ai cité une petite phrase. Et on a un autre écho de ça, c'est Steam, donc, où son business model, c'est les jeux vidéo, qui avait essayé à plusieurs reprises de contacter les équipes d'Apple en me disant bah, « Tiens, ça serait peut-être cool de faire un truc ensemble, de faire en sorte que nos jeux vidéo soient disponibles sur Apple. » Parce que Steam, ils ont pas de crèmerie. Et le but, c'est juste que les gens jouent à leurs jeux vidéo. Quoi. Donc, plus il y a de gens qui distribuent Steam, plus ils sont contents. Et pareil, ils n'ont jamais eu vraiment de retour. Plus des retours en mode « Ouais, tiens, c'est une bonne idée, il faudrait qu'on fasse un truc. »
Ils se sont fait friendzoner.
Ils se sont fait friendzoner de ouf. La façon dont ils le racontent, c'est vraiment ça. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Apple s'intéresse aux jeux vidéo. Mais historiquement, non pas pour le Mac, mais pour l'iPhone et l'iPad. Et on va voir que ça a une importance capitale dans notre histoire. La première fois qu'Apple a invité des éditeurs de jeux vidéo dans une de ses keynotes absolument incroyables, c'était pour iOS. Et en fait, c'est tout à fait compréhensible, le marché du jeu mobile est immense. Il est même plus gros que celui du PC et des consoles réunies. Et il y a un gros... dans ce marché... du jeu mobile, il y a quasiment la moitié, un peu moins, qui est pour Apple, l'autre moitié c'est Android. Donc en fait, c'est une manne très importante, une manne financière très importante pour Apple. Et donc c'est tout à fait logique qu'ils s'intéressent aux jeux vidéo, d'abord pour l'iPhone. Et du coup, ils ont accompagné cet essor du jeu mobile qui est arrivé un peu dans les années 2010-2015, en faisant des annonces. Notamment, ils ont annoncé Metal, donc c'est une interface de programmation qui est sorti en 2014 avec iOS 8 à l'époque. Et donc, c'est une interface de programmation pour la 3D, donc pour faire des rendus 3D, forcément, qui sont utilisés derrière pour les jeux vidéo. C'est un peu le DirectX d'Apple, ce logo qu'on voit partout et on ne sait jamais ce que c'est sur les jeux PC. À tel point que j'ai vu ça et je ne savais pas, honnêtement, qu'aujourd'hui, on peut jouer à des jeux AAA sur iOS. Incroyable. Genre Assassin's Creed Mirage, le dernier, là, on peut y jouer. Resident Evil 4 aussi, remake. Ça a été annoncé, je crois, il y a 6 mois ou peut-être un an.
Mais si, mais moi, j'avais vu des trucs comme ça. Pareil avec des GTA.
Ouais,
il y a,
ouais.
Il y a des anciens GTA dont à l'époque, on aurait rêvé de pouvoir jouer sur des appareils mobiles et des trucs comme ça. Et où, évidemment, les performances étaient impossibles. Ils sont ressortis plus tard, Rockstar les a, je sais pas comment ils ont procédé, mais ils les ont ressortis sur iPhone.
GTA, tu vois.
Et par exemple San Andreas, tu vois, il y a vraiment longtemps, ils l'ont sorti sur l'App Store, tu peux le télécharger, le lancer et ça tourne bien mieux que n'importe quel PC de l'époque sur un tout petit truc. Et c'est justement ça, moi, qui m'a fait le plus halluciner en mode, mais quel potentiel manquait, genre pourquoi il n'y a pas plus de jeux. C'est pour ça que je suis vraiment très intrigué par la question.
Exactement. Et donc, du coup, c'est fou de pouvoir faire ça sur iOS. Qu'en est-il pour le Mac? Qu'est-ce qu'ils font avec ce Mac? Et bien, jusqu'ici, rien n'était fait. Vraiment, il y avait zéro effort. Alors, vraiment, pas un ingénieur, j'exagère un peu, mais pas un ingénieur bossait vraiment sur le fait de pouvoir jouer sur Mac. Mais ça a changé. Ça a changé à deux moments précis. On va revenir sur ces deux moments. Le premier, c'est en 2020, l'annonce des processeurs Apple Silicon par Apple, du coup.
C'est super récent, du coup.
En 2020 oh, bah, non, ah oui, oui, bah, c'est il y a 4 ans.
Je pensais les deux points, tu disais...
C'est le premier, c'est en 2020, le deuxième, c'est plus tard, tu verras. Non, ouais. C'est assez récent. Ouais, non, avant, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. À part sur iOS, comme je l'ai dit. Donc, en 2020, l'annonce des processeurs Apple Silicon, donc le passage pour Apple de processeurs Intel, on dit x86, à des processeurs Apple Silicon, des processeurs sur l'architecture ARM. Il y a plusieurs raisons à ça, dont une qui nous intéresse particulièrement, avoir une architecture commune à tous les appareils Apple, que ce soit les iPhone, les iPads, l'Apple Watch, je crois même, les Mac, ils tournent tous sur la même architecture et évidemment, eh ben, ça simplifie plein de trucs en termes de développement derrière. Il y a évidemment d'autres raisons, mais celle-là est une des principales et celle qui nous intéresse aujourd'hui. Et du coup, on peut se dire, ben, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Et par exemple, Metal, qui existe sur iOS, on va pouvoir le porter assez facilement sur macOS. Et donc Metal, c'est, je rappelle, l'interface qui permet de faire du rendu 3D. Et puis, deuxième raison où on se dit que tiens, ça peut peut-être jouer être un moment décisif pour le jeu vidéo sur Mac, cette annonce des Apple Silicon, donc c'est bien de ça dont on parle, c'est que l'architecture en elle-même des Apple Silicon est plutôt bien optimisée pour le jeu vidéo. Ça ressemble même, ces processeurs ressemblent même à des processeurs qui sont embarqués dans des consoles de salon, des consoles de jeux type PlayStation 5 ou Xbox. En fait, c'est des processeurs qui ont un CPU, un GPU et une mémoire dans une même puce. Et déjà, Apple met une importance sur la partie GPU, donc sur la partie graphique, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on a pu voir avec les anciens Mac qui tournaient sur Intel. Là, vraiment, ils en parlent dans leur keynote, alors qu'avant, tant qu'on arrive à afficher l'écran, on est content. Quoi. Enfin,
il y avait un petit partenariat avec AMD. Voilà, ils te mettaient un GPU mobile.
C'était un enfer.
C'était vaguement potable, mais trois fois moins que la concurrence au même prix. Voilà, en gros.
Et autre chose qui est incroyable, c'est la mémoire unifiée. Et ce qui est d'ailleurs aussi intéressant pour faire tourner des IA, c'est quand on joue à un jeu vidéo, on peut prendre cette mémoire RAM unifiée et se dire « Ok, on va l'allouer que au jeu vidéo. » Et du coup, ça fait une carte graphique qui a potentiellement 8 gigas de mémoire qui est allouée pour cette partie graphique. Et c'est énorme. Et donc du coup, d'avoir...
Ce qui est nécessaire pour des plus gros jeux. Enfin vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de VRAM.
Alors qu'avant, encore une fois, avant ces puces Apple Silicon, jamais t'avais 8 gigas, ou alors fallait prendre une option très très chère, dédiée à la partie graphique. Là, le fait que la mémoire soit unifiée dans ces nouveaux processeurs annoncés par Apple, c'est une très bonne nouvelle pour l'essor potentiel du jeu vidéo sur macOS. Enfin... Dernière chose qui ont fini de convaincre les gens qui travaillent dans le jeu vidéo et qui ont vu cette conf, ils se sont dit « Ok, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'y a qu'une seule famille de processeurs à prendre en compte. » Avant, globalement, il fallait prendre en charge toutes les cartes graphiques qui existent sur Terre. Par exemple, ce que fait Windows et les développeurs de Windows, bah, voilà, il faut faire en sorte que tous les jeux fonctionnent sur toutes les cartes graphiques. Ça, Apple ne le faisait pas et n'avait aucune envie de le faire. Maintenant qu'ils font leur propre processeur et que c'est la même famille, ça paraît beaucoup plus simple à maintenir et à se dire « Ok, bah maintenant qu'on n'a qu'un seul processeur graphique, entre guillemets, on va pouvoir l'utiliser pour tous les jeux, ça va être super simple. » Est-ce que j'ai été clair sur ces petits points techniques?
Jusqu'à présent, moi, je suis en train de comprendre que c'est la plateforme idéale pour faire du jeu vidéo. Tu aurais dit ça il y a 10 ans pour des Macs, ça aurait paru absurde. Ça m'intrigue de plus en plus parce que pour l'instant, ça se passe pas, quoi. Vraiment.
Exactement.
Il n'y a que dalle.
Mais pourtant, là, on se dit, OK, alors peut-être, vraiment, ça devient la meilleure plateforme. J'ai envie d'y jouer. Et Apple va nous donner raison, il y a 6 mois, donc, un peu plus, en 2023, lors de leur keynote. Ils invitent à leur keynote, et ils le font en grande pompe, on connaît Apple, ils invitent à leur keynote Hideo Kojima. C'est le créateur de la saga Metal Gear.
Oh. Vraiment.
Ouais, quelqu'un de...
Non mais nice.
Tu t'aimes bien ce jeu ?
Oui.
Ouais, voilà, c'est ce monsieur. C'est quelqu'un de très très respecté chez les éditeurs de jeux vidéo. Et voilà, il annonce qu'il va porter notamment un jeu que je ne connaissais pas, Death Stranding. Tu connais ?
Oui, c'est un nom de...
Voilà, en gros...
Je vois sur le côté.
Globalement, on comprend que Apple a fait un partenariat avec cet éditeur pour qu'il porte ses jeux sur Mac et qu'il mette à disposition... ces jeux qui sont vraiment très chouettes sur la plateforme macOS. On se dit ok, bon bah là en plus Apple ils avaient tout fait, il y avait tous les ingrédients pour faire une bonne plateforme macOS, et en plus Apple maintenant nous le dit, en fait on a un peu envie que vous jouiez sur Mac, regardez on a invité cette personne, ils annoncent des jeux, plusieurs jeux en grande pompe, j'ai un peu oublié les noms, mais il y a plusieurs jeux qui sont annoncés, Assassin's Creed je crois et d'autres. On se dit non, pas Assassin's Creed,
j'ai pas moyen. Non, je pense que j'aurais testé ça. Et alors, peut-être j'ai raté la dernière.
Eh ben, j'ai oublié, mais peut-être que le chat là. Mais en tout cas, ils annoncent 3-4 jeux en natif sur Mac. Donc, il y a des partenariats. Dans cette keynote, ils mettent aussi l'accent sur les GPU. La puce M3 a des performances graphiques bien plus élevées qu'avant. Donc, vraiment, tous les signaux sont là. Un responsable marketing.
À la moitié de la puissance, enfin, la moitié de la consommation électrique, quoi. Ce qui est le rêve de n'importe quel.
De pouvoir jouer dans le train.
Exactement. N'importe quel joueur sait que si t'achètes un ordi gaming portable, tu as une heure de jeu, en fait, où j'exagère, mais deux heures, trois heures.
Et les responsables marketing sont d'accord. Il y en a un qui dit le jeu vidéo fait fondamentalement partie du design des puces Apple. On se dit, c'est bon, dernière annonce qui finit d'enfoncer le clou. Apple rentre dans le jeu vidéo pour le bon. Tu en as parlé en intro, c'est l'annonce du Game Porting Toolkit. C'est une couche de traduction.
Ça, c'est une dinguerie.
Permettant de jouer à des jeux Windows, mais sur Mac.
Mais non.
Et là...
Ça, c'est une dinguerie.
On se dit, c'est bon.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Parce que moi, pour expliquer, moi, je suivais depuis longtemps des projets, comme ça fait un certain temps que j'ai un Mac et que je voulais pouvoir jouer à des jeux, je suivais depuis longtemps des projets qui essayent de faire ça, qui essayent à défaut, puisque les développeurs ne le font pas et considèrent que ça ne vaut pas le coup de s'investir sur Mac, et ben il y a des gens qui se sont dit, bon, c'est pas grave, on va faire comme sur Linux, comme ce qu'ils ont fait eux, et on va prendre des jeux conçus pour Windows et trouver des moyens d'émuler ou de virtualiser un environnement Windows pour faire tourner quand même ces jeux.
Mais est-ce que c'est pas super slow ?
Ça existait, en fait, voilà, ça existait depuis longtemps, des trucs comme ça. Certains connaissent peut-être... Ouais, bah, le nom vient de m'échapper.
Mais, Wine ?
Alors, il y a Wine, mais il y a un truc basé dessus.
Si vous... Crossover.
Oui, voilà. Merci. Une boîte spécialisée à faire des couches, exactement, des couches d'émulation de ce genre, qui s'appelle Crossover, et qui était le mieux de ce qui existait, et qui te permettait de jouer à des jeux, que ce soit jouable, tu vois. Bon, par contre... Tu divises par 2 ou 3 les perfs que tu devrais avoir, en gros.
Puis tu fais pas un counter, quoi.
Non. En fait, tu peux jouer alors qu'avant, tu ne pouvais pas. Ouais. Mais effectivement, c'est du gâchis. Genre, c'est un gâchis de matériel et de hardware, ouais. Ce qui fait que ça n'aurait aucun sens d'acheter un Mac rien que pour cette raison. Enfin, et là, Apple sort un truc. Mais c'est de la magie noire. C'est-à-dire que tu vois la keynote, le truc. C'est tout ce dont cette communauté-là rêvait depuis hyper longtemps. À savoir, ils arrivent à faire tourner des jeux conçus pour Windows. Donc, si je dis pas bêtise, c'est typiquement des jeux pour Vulkan ou des choses comme ça.
Exactement.
Et ils arrivent à les...
On va pas dropper tous ces noms compliqués, mais je vais essayer d'en dire le moins possible.
Exactement.
Promis.
Mais alors, tu me dis si j'ai une bêtise, hein. Mais ils arrivent à les faire tourner quasiment à vitesse réelle. C'est-à-dire que c'est par rapport à si ça avait été développé en natif sur Metal, eh ben c'est quasiment au max des perfs que tu pourrais espérer, en gros.
Ok.
Et donc moi je me souviens à ce moment-là c'est le haut de la vague en termes de hype. Tout le monde se dit ça va être dingue le gaming sur Mac et ça s'apprête à changer. On va pouvoir jouer à tous les AAA. Il va se passer la même chose que sur Linux. Et ça malheureusement C'était il y a quelques années. Ça veut dire que ça ne s'est pas fait.
Alors, le Game Porting Toolkit, oui. C'était il y a 8 mois.
8 mois, ok. Ouais.
mon temps est complètement...
Si je dis pas de bêtises, hein, mais...
J'étais persuadé que c'était plus... Ok.
Mais quand même,
c'était il y a 8 mois.
Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, et alors il y en a qui espèrent comme toi, on a eu un tweet qui a, peut-être que Thiel va pouvoir l'afficher. Tiens, j'aimerais bien jouer sur Mac, où ça en est, etc. J'ai fait un sondage pas du tout représentatif et officiel pour savoir si les gens ont joué sur Mac. Et globalement, c'est encore assez rare. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 mois? Pourquoi on n'a pas notre bibliothèque remplie de jeux vidéo? Et bien, on va tenter de le comprendre en allant dans le détail de tout ce que tu as expliqué. Et premièrement, ce qui est important de savoir, c'est quoi ce Game Porting Toolkit qui est là avec tous ses espoirs et se dire, ok, on va peut-être pouvoir utiliser un truc trop chouette. Il le sort en juin dernier. Et pourquoi il y a tant d'espoir sur ce projet, comme tu en as parlé, c'est qu'il ressemble vachement à Proton. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Proton, on en a parlé dans une vidéo il y a 2 semaines dans l'émission. Et pour résumer, très rapidement, c'est d'une couche de traduction que Steam a propulsée pour traduire en temps réel les jeux de Windows à Linux. Et donc Steam l'utilise dans SteamOS, et notamment pour sa console de jeux portable. Et ce qui est fou, c'est que ça marche du tonnerre. Genre parfois, ça marche mieux que certains jeux Windows en natif. Genre vraiment, Proton est un ovni logiciel qui impressionne tout le monde tellement ils ont tout optimisé. Et là, ils se sont dit, Apple vient de sortir l'équivalent, mais pour Mac, ça va être... une dinguerie. Genre, vraiment, c'est incroyable. Et en effet, c'est ça. On va l'appeler GPT. Bon, c'est peut-être une très mauvaise idée, mais Game Porting Toolkit. Et une couche de traduction qui vient interpréter les appels API donc, de Windows et de DirectX. Bref, ce qui est de Windows à macOS, Apple, et donc pour la Metal, notamment DirectX tout Metal. Et donc, c'est incroyable. Surtout que, dernière chose qui finit de nous convaincre, Proton et le Game Porting Toolkit sont basés sur le même logiciel à la base qui s'appelle Wine, comme on l'a dit. Et donc ça annonce vraiment des possibilités incroyables. Problème, et j'ai un peu enquêté, je vous le dis maintenant, le Game Porting Toolkit n'est pas Proton. Et c'est dommage. Pourquoi il n'est pas Proton ? En fait, le GPT a été conçu avant tout pour les développeurs de jeux vidéo, pour tester si le portage de leur jeu va être facile ou pas. Et potentiellement, on leur dit, vous voyez, c'est pas très dur, faites le portage. En vrai, ça vaut le coup, c'est pas très dur. Notamment, par exemple, si vous êtes un développeur de jeux vidéo sur Unity ou sur Unreal Engine. Sur Unity, par exemple, c'est une option de compilation. Donc tu peux te dire, ok...
Il y a juste un truc à cocher, c'est bon, quoi.
Si y a un truc à cocher, quasiment, la cible de la compilation, c'est pas la même, mais ton jeu, il va marcher sur un macOS. Et donc, en fait, avec ce Game Porting Toolkit, le but d'Apple est bien d'avoir des jeux en natif sur Mac et de fournir un argument marketing, un peu, un petit logiciel de test pour dire, hey, regardez, c'est pas si difficile, portez votre jeu sur Mac. Or, ce qui a fait le succès de Proton, donc son équivalent sur Linux, ce n'est pas ça. Parce que le postulat de Proton fait l'inverse. Le postulat de Proton, c'est « Ok, on n'a pas assez de jeux sur Linux, mais en fait, c'est trop dur d'inciter les développeurs de jeux vidéo à faire des jeux sur Linux. Alors vraiment, il y en a 3 dans le monde, c'est trop dur. »
Ça ne pourrait jamais le
faire. On a essayé pendant longtemps, ça n'a pas marché. Changeons de stratégie. La stratégie, c'est... au lieu de faire des jeux natifs, on va faire une couche de traduction qui marche du feu de Dieu, comme je l'ai dit. Et ça a super bien marché. Résultat, le Game Porting Toolkit, c'est un peu du brute force. C'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les briques, ça fonctionne, mais c'est pas élégant et c'est pas du tout optimisé. Et je vais vous montrer pourquoi c'est pas optimisé et ce qui pourrait que ça change et que ça devienne l'outil banger que tout le monde attend. En fait, c'est un peu comme si tu faisais le POG d'un jeu. Dire ok, ça fonctionne, maintenant faisons en sorte que ça marche vraiment avec les bonnes API, avec les vrais appels API, les vraies bibliothèques d'Apple.
C'est pas aussi optimal que Proton, quoi.
Ouais, et d'ailleurs il y a un exemple qui le dit très bien en commentaire d'une vidéo YouTube sur le sujet, qui dit qu'en fait il y a 4 couches de traduction entre le jeu et le hardware, et qu'aucune de ces couches n'est optimisée, genre c'est comme si t'avais mis des « et » quoi, entre chaque couche, et donc voilà, il décrit les 4 couches, c'est sans doute du blabla, mais en gros, il y a 4 couches de traduction différentes. C'est comme si on partait du chinois, on passait par le japonais, l'allemand, puis le français.
Si, je crois que j'ai compris cette phrase. je sais pas si c'est grave.
Ah,
Ouais.
Oui, moi aussi j'ai compris, mais je voulais pas m'attarder dessus.
Non, mais c'était une bonne énigme, j'avais envie de vérifier.
Donc en gros, c'est pour passer de DirectX.
Je me dis si j'ai la merde, mais du coup, l'API graphique utilisée par un jeu DirectX 11.
Version 11, ouais.
La convertir en Vulkan.
Ouais.
Avec un truc qui s'appelle DXVK, que je connais.
Exactement.
Qui doit exister.
Oui.
Après, Molten VK, ça je connais, c'est pour traduire l'API du Vulkan en métal.
Oui.
Et après, le jeu lui-même, il est probablement en X86.
Complètement.
Et donc, tu dois passer par Wine et Rosetta.
Alors, c'est Rosetta pour le passage de RM, et du coup, Wine.
Pour traduire les syscalls.
Voilà, c'est ça. Quoi wow, bien joué. Je pensais pas qu'on ferait ça, mais.
Quel chemin. Non, c'était une curiosité personnelle.
Exactement. Et pourquoi on sait tout ça ? Que le game port tooling n'est pas optimisé. Parce qu'en fait, il y a eu des tests, plusieurs youtubeurs l'ont fait, même Linus l'a fait, tu vois. Il a fait un sujet là-dessus. Et il a comparé entre un jeu sur Metal nativement, donc avec Rosetta, et un jeu avec le game porting toolkit. Et si tu peux revenir sur la capture d'écran et mettre pause, vraiment, il y a un écart de très gros entre les frames à gauche et les frames à droite. Genre, c'est le même jeu, hein. C'est le même jeu. D'un côté, c'est nativement, il y a juste la traduction de fin pour passer de x86 à ARM. Bref, c'est le jeu natif. De l'autre côté, c'est pas le jeu natif. C'est avec le Game Porting Toolkit. Ça détruit complètement l'expérience.
Ouais.
Et en plus, on l'a dit, par rapport à Proton, ça sera coupé, mais il y a une couche de traduction supplémentaire qui est Rosetta 2 pour le faire passage de x86 à ARM. Est-ce que pour autant, c'est sans intérêt, ce Game Porting Toolkit ? Pas du tout. Parce que certes, il y a pas mal de jeux qui crashent, parce que vraiment, vous pouvez jouer actuellement à plein de jeux, mais il y en a qui fonctionnent. Notamment, je vais essayer de vous donner envie, Resident Evil Village, No Man's Sky, Hollow Knight, moi, ça, j'ai failli craquer. Voilà, donc ça, c'est une liste des jeux qui marchent. Cyberpunk. Et oui. Cyberpunk fonctionne. Alors, potentiellement, il faut avoir au minimum un M2 Pro pour que ça fonctionne. Ouais, quand même. mais ça fonctionne. Tomb Raider, mais c'est un vieux jeu. Baldur's Gate 3. Bref, entre les jeux natifs qui sont sur la plateforme, mais aussi les jeux que vous pouvez faire tourner avec le Game Porting Toolkit, il y a honnêtement des bons jeux qui existent. Et si ça fonctionne, vu que l'installation de ce genre d'outils est un peu chiante, eh ben, y en a qui l'ont rassemblé dans une application qui s'appelle Whisky. Et donc vous pouvez installer Whisky App à vos risques et périls sur votre macOS.
Pas du tout encadré par Apple, ça.
Pas du tout encadré. Ah non, vraiment pas du tout. Sauf qu'en fait, ça mélange tous les outils que j'ai un peu cités précédemment. Il y a du Wine, il y a du Crossover, et il y a du Game Porting Toolkit. Donc tout ça dans le même endroit, avec une jolie interface.
Mais c'est ça. En fait, moi je vois qu'ils ont bien bossé leur landing page. Ça veut dire que normalement, le processus d'installation va pas être trop pénible. Général, tu vois ça ou...
Exactement.
C'est plutôt bien expliqué, je trouve.
Ouais. Vraiment.
Mais tu l'as testé du coup ?
Non, parce que j'ai un Mac Intel autre argument, je joue pas du tout à des jeux vidéo. J'ai adoré faire cette chronique.
Je vais l'essayer, tu sais quoi ? Pareil, je joue plus tellement, mais j'ai quand même très envie d'essayer là.
Mais alors, attention, il y a quand même, vous l'avez vu sur le sheet d'avant, il y a pas mal de jeux qui ne marchent pas. Sur Linus, quand il a fait son test, sur 9 jeux, il y en a 5 qui marchaient pas quand même.
Ok.
Donc bon.
Et bah avant, c'était zéro.
Avant, c'était zéro. Et justement. On est un peu déçu parce qu'on s'attendait à un Proton-like et à se dire on va pouvoir tout jouer à littéralement toute la bibliothèque Steam sur macOS. Mais est-ce que ça a quand même des chances d'évoluer ? Est-ce que le Mac a la possibilité de devenir une vraie plateforme de jeux vidéo ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire oui. En fait, macOS a tout pour être une incroyable plateforme de gaming, sauf les jeux. Et pour que ça change, il y a selon moi 3 façons de faire. La première, c'est celle d'Apple actuellement. Inciter les développeurs à développer le maximum de jeux natifs sur Mac, à l'aide de partenariats avec les éditeurs, à l'aide du Game Porting Toolkit. Et moi, personnellement, je pense que c'est une erreur. Parce que Apple a ignoré pendant plus de 20 ans les jeux vidéo. Et du jour au lendemain, se dire « Non, mais c'est bon, on est Apple, on va convaincre tous les éditeurs de jeux vidéo de faire une version Mac », j'y crois pas trop.
Ouais.
Bah, quand tu auras pas chié dans la bouche, mais quand tu les as ignorés pendant 20 ans.
Ouais, en fait, moi je trouve que. Effectivement,
mais je veux bien entendre ton avis.
Bah, en gros, pour moi, le contre-argument, c'est regarde, Proton, ils ont pas fait ça. je sais pas combien de ressources ils ont mis à mettre au point Proton et ce que devrait faire Apple pour ça, mais je crois que la différence majeure, c'est une histoire de marché, en fait, de thunes. Et effectivement, aujourd'hui, pour des développeurs, le calcul, il est pas rentable. Tu te dis, tu as 1% de ta base d'utilisateurs qui est sur Linux. C'est, en plus, c'est pas forcément des gens qui ont les habitudes d'achat les plus importantes. Là, à côté, Apple, ils arrivent, ce qu'ils mettent sur la table, c'est, je sais pas combien ils ont vendu de Mac avec Apple Silicon depuis quelques années, là. Mais ils mettent quelque chose quand même. Ils sont en mode, voilà, tous ces gens, ils ont du matériel qui, depuis pas longtemps, est capable de faire tourner des super jeux. Plus, c'est des gens qui, en général, il y a toujours
le
paiement d'Apple Pay super intégré, ils ont l'habitude de
et t'achètes potentiellement plus de jeux, enfin d'applications sur Mac que sur Windows.
Moi je trouve qu'ils ont je suis d'accord.
C'est vrai qu'il y a un argument où ça fait 3 ans que les Mac M1, M2, M3 sont sortis. Il doit y avoir une bonne base, mais il n'y en a peut-être pas encore suffisamment. Peut-être que si on attend 5 ans, il y aura encore plus de Mac Apple Silicon dans la nature. Et que là, du coup.
Un manque à gagner trop important pour le rater, quoi.
Voilà. Et peut-être qu'entre temps, les nouveaux jeux, ils vont directement se dire on fait une version Mac. Franchement, peut-être.
Moi, j'y crois aussi.
C'est la première façon. Mais moi, j'en ai quand même deux autres à vous proposer qui sont pas forcément moins bien. La deuxième, en fait, c'est de copier la stratégie de Steam avec celle de Proton. C'est qu'au lieu de créer une couche de traduction de test, d'en faire une super optimisée. Et honnêtement, vu ce qu'a arrivé à faire Steam avec Proton, Apple en est capable.
Mais c'est sûr, ouais.
Tu prends les meilleurs ingénieurs logiciels en performance graphique, en 3D, en je sais pas quoi, ce qu'il faut pour faire ce genre de dinguerie, et tu peux faire un game porting toolkit qui soit une vraie couche de traduction que tu utilises en temps réel, et là, d'un claquement de doigts, instantanément, tu as peut-être 80% de ta bibliothèque Steam que tu as achetée sur Steam qui est compatible avec ton Mac. Moi, j'aimerais bien. Ouais. franchement, j'y crois pas trop. Enfin, je sais pas si j'y crois pas trop en vrai.
Ouais, en fait, j'y crois pas trop, mais c'est triste.
Voilà. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça serait aussi bien plus rapide. On aurait accès à tous ces jeux bien plus rapidement. Parce que il faut développer la solution, mais c'est bien plus rapide de faire un truc super optimisé dans ton coin et que tout marche que d'aller convaincre chaque studio avec des billets, avec des discussions, avec du temps. Ou alors avec le temps, faire au long terme et se dire que les gens vont l'adapter naturellement. Enfin, il y a un truc où il y a un accélérateur de solutions. Moi, j'y vois un peu un accélérateur de solutions.
Il y a une étape en moins.
Et enfin, une dernière solution, et là, je suis sûr que vous n'y avez pas pensé, et ça fait écho à une chronique que tu as faite, c'est de utiliser Linux sur ton Mac.
J'avoue, mais oui, c'est clair.
En fait, tu peux utiliser Linux donc via Azay Linux sur ton Mac, et donc du coup, profiter de Proton et de ta bibliothèque Steam.
Est-ce que c'est aussi simple que ça? Pour recontextualiser, historiquement, on a toujours pu installer plusieurs OS sur Mac, sauf qu'avec ces nouvelles puces, c'est une sorte de nouvelle architecture, en fait. Donc, il fallait un peu recommencer de zéro. Il n'y avait pas de distribution Linux du tout qui pouvait marcher sur ces nouveaux Macs avec Apple Silicon. On vous a fait une chronique pour vous expliquer ce projet complètement dingue avec une sorte d'équipe d'Avengers avec les plus gros génies en développement de drivers graphiques et de. Enfin, bref, qui a bossé sur Azay OS, Azay Linux, qui est maintenant en train de devenir stable. Donc c'est un truc dont vous pouviez vous foutre avant, mais là c'est en train de devenir vraiment intéressant, quoi.
Et la communauté s'est dit la même chose, s'est dit on va essayer. Ils ont réussi quand même à faire tourner 34 jeux Steam sur Mac grâce à ça.
Mais bien.
Et franchement plutôt bien. Alors j'ai pas le détail des perfs, mais en fait là c'est encore un peu tôt. Il faut encore un peu attendre. Il y a Lina, qui est la... Ah, tu la connais?
Bien sûr, non, j'en avais parlé pour la première fois.
Et c'est celle qui est du coup l'ingénieur GPU, on va dire, carte graphique. Elle a porté Proton sur Azay Linux, la craque. et en fait, c'est encore en cours de dev. Donc typiquement, il y a Vulkan qui... Vulkan n'est pas supporté dans son entièreté. Et le jour où ça sera le cas, ça apportera encore plus de jeux disponibles. Donc honnêtement, je sais pas si je le tenterai aujourd'hui. Pour être tout à fait honnête, il y a encore pas mal de problèmes. Par exemple, Steam n'est pas disponible en 64 bits, sauf que Azay Linux nécessite du 64 bits.
Bah oui, c'est ça. C'est
parce que machin et tout.
En fait, à partir du moment où tu passes sur Linux, tu perds Rosetta.
Exactement.
Et donc, il faut des jeux qui... Ok, en fait, tu n'as plus la contrainte d'avoir des jeux qui doivent être adaptés à macOS, mais du coup, tu as quand même toujours la contrainte ARM.
Voilà, exactement. Et donc, ce n'est pas si simple, mais je voulais citer cette solution parce qu'il y a des gens qui se tuent à faire en sorte que ça soit possible. Et honnêtement, ça marche déjà sur 34 jeux. Et donc peut-être qu'à l'avenir, ça sera une solution pas bête et surtout très efficace. Et cool. Parce que ça, si ça marche comme il faut avec Proton, ça marchera du feu de Dieu.
Oui, c'est ça, parce que tu bénéficies de tout le travail qu'a fait Steam et la communauté.
Exactement.
Pour récupérer toute la bibliothèque.
Et c'est vrai que tu le mentionnes, mais toute cette histoire de jeux vidéo sur Mac ne serait impossible sans ce qu'a fait Steam pour le jeu, notamment sur Linux, parce qu'il y a des architectures tout à fait semblables. Et donc si Steam n'avait pas tout fait ça, n'avait pas fait tout ça, même le Game Porting Toolkit sans doute n'existerait pas.
Ah oui, notamment on a mentionné Molten Viké, ça je sais plus qui est d'ailleurs, mais bon bref.
Ça fait plusieurs jours que je suis dans les noms de codecs.
Oh là là.
Vulkan, c'est devenu mon pote. Crossover, pareil.
Et tu ne parles à plus personne.
ça change pas d'habitude, mais.
La barbe. Normalement, c'est toutes ces choses se produisent.
Ouais, je mets un bonnet. Enfin bref. Ouais, c'est...
Hyper intéressant. Merci de t'être plongé là-dedans, parce que nous, du coup, on découvre tout ça gratos.
Mais du coup, voilà, c'est pas encore tout à fait ça le jeu vidéo sur Mac, mais peut-être un jour.
Est-ce que toi, ça t'intéresse ou t'es gameuse ou pas beaucoup?
Non, si, carrément gameuse, mais du coup, depuis que j'ai switché sur Mac, je joue plus.
Bah ouais, mais comme plein de gens.
Et c'est trop. Enfin, je joue plus. Oui, c'est déjà, je sais pas si j'aurai beaucoup le temps, mais en fait, c'est trop triste parce que du coup, à chaque fois, quand j'ai envie de jouer. Parce que
tu vérifies 4 secondes. Est-ce qu'il est dispo sur Mac?
Non. Bah, je sais qu'ils sont. Alors, j'ai un jeu récurrent, c'est Skyrim. Genre, tous les 2 ans, il faut que je refasse une partie. Mais le truc, c'est que à chaque fois que quand j'ai re-envie d'y jouer, et je me dis, bon, faut que j'achète une tour. Et à chaque fois, je m'arrête là. Dans mon raisonnement, je me dis, non, mais tu vas pas acheter une tour juste pour jouer à Skyrim, ça va pas du tout.
Sinon, tu peux acheter un Steam Deck. C'est une autre alternative, oui, ouais. Ça coûte 300-400 balles maintenant.
Moi je sais que j'ai même un blocage psychologique, genre je me dis, en fait à aucun moment je me dis je vais jouer sur mon Mac.
Oui.
Genre,
c'est juste impossible.
C'est, genre, et pourtant il y a des jeux qui existent, genre je crois que tu peux jouer sur Worms, c'est tout, un jeu que j'adore.
Après t'as le cloud gaming, t'as des choses comme ça, mais il y a un côté un peu énervant d'avoir une machine de guerre que tu peux pas utiliser à son potentiel. Oui. Hyper cool. Merci Mathieu pour cette chronique passionnante. J'espère que...
Tu nous as donné de l'espoir.
Voilà, exactement.
Ben, j'espère.
C'est ça que j'aime bien dans les chroniques, c'est que parfois il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a toujours une petite lueur. Et j'espère que vous avez été intéressés par cette émission qui était riche. Elle était effectivement... En fait, il n'y a aucune des trois parties qui était vraiment simple. C'est pas grave.
Non, mais on est une émission grand public. Hein.
Ouais, bien sûr. Non, mais si vous n'avez pas tout compris ou alors que vous êtes arrivé en cours de route, eh ben, ne vous inquiétez pas, sur YouTube, on vous fait un condensé qui est souvent plus simple à suivre avec plein d'illustrations, etc. Donc, allez voir la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et suivre cette chaîne Twitch. On revient dans 2 semaines, mercredi, à toujours 19h. Et puis voilà.
J'étais en train de me remettre en question en mode, est-ce que je fais des sujets trop barbus en ce moment, parce que j'en fais plein. Moi, et en même temps, ce sujet, c'est toi qui me l'as donné. Oui. Tu m'as dit, vas-y, traite-le. J'ai fait, d'accord.
Non, mais en fait, c'est exactement, c'est juste, c'est ce qui m'intéresse.
Mais oui, en plus, en ce moment, il était fan de tous ces sujets.
Je sais pas pourquoi, ouais. Je sais pas, c'est comme ça.
Est-ce que je suis sûr qu'ils sont contents, les gens?
Mais là, exactement, moi, je vois dans
les. Moi, je pense que merci, c'est des sujets qui font l'unanimité.
C'était super. Oui, trop bien comme d'hab, toujours au top. Ah, voilà.
Voilà, tout le monde, voilà.
Exactement. Je suis pas le seul intéressé.
Et sur ce, cool.
On vous fait des gros bisous et on se retrouve dans 2 semaines.
Tchuss. Salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.